Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. D'Alternante FM, je suis heureux de vous retrouver pour Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Au sommaire de ce quatrième numéro, je vous donnerai mon sentiment sur la gestion étatique des flux actuels de réfugiés et sur les tensions secouant la région calaisienne. Je vous parlerai ensuite de deux ouvrages très intéressants. Le premier est un recueil de textes du célèbre historien américain Howard Zinn, recueil intitulé « Se révolter si nécessaire ». Le second est un ensemble de courts textes sur les luttes menées par les immigrés en France contre le racisme et les discriminations, texte initialement publié dans Plein Droit, la revue du groupe d'information et de soutien des immigrés. Après la traditionnelle revue de presse, je vous offrirai une nouvelle pièce radiophonique dont les protagonistes sont deux travailleurs d'une boîte quelconque qui parlent de théâtre et de Jésus-Christ, en espérant que cela vous fasse sourire. Puis viendra le temps de notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales. Cette semaine, je vous parlerai de la fin des corporations et de la fameuse Saint-Lundi, célèbre coutume à l'occasion de laquelle ouvriers et ouvrières manifestaient leur volonté de résister à l'aliénation salariale. J'ai souhaité, dans le cadre de cet éditorial, vous dire quelques mots suite aux attentats qui ont secoué Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015. À l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes le 14 novembre, on compte près de 150 victimes et des dizaines de blessés, dont beaucoup sont entre la vie et la mort. De nouveau, le terrorisme islamiste lié à Daesh a frappé l'Hexagone avec une violence rare. Ces fous d'Allah, comme certains les appellent, ont voulu punir l'État français pour son implication militaire dans un conflit syrien qui fait quotidiennement des dizaines et des dizaines de morts. Mais il y a plus que cela, plus que ce dent pour dent et œil pour œil. Le grand drame des djihadistes, c'est que dans leur immense majorité, les musulmans, les pratiquants comme les plus distanciés à l'égard de la religion, ne se reconnaissent pas dans leur lecture anhistorique, littérale du Coran, de leur sectarisme qui fait d'eux les seuls vrais et respectables musulmans. Leur seul espoir de conquérir les musulmans de France est dans l'exacerbation des tensions interreligieuses ici même. Jouer sur le racisme et l'islamophobie, rendre insécure la situation des musulmans de France pour prouver que la place des vrais musulmans n'est pas ici au milieu des infidèles, mais dans ce califat autoproclamé qui émerge au cœur du Moyen-Orient. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais les djihadistes ne s'attaquent pas à l'extrême droite raciste et islamophobe, parce qu'ils partagent avec elle la même idée centrale. Le vivre ensemble est impossible, ou plutôt, le vivre ensemble ne doit pas être possible. Les djihadistes attaquent Paris la cosmopolite et tirent indifféremment sur la population, sans se soucier le moins du monde de la couleur de sa peau ou de sa confession. Nos djihadistes, par leurs idées et leurs méthodes, sont d'extrême droite. Même si parler d'islamo-fascisme n'a pas de sens, à moins de réduire le fascisme à une forme de totalitarisme et de mépris de la vie humaine, et d'oublier que le fascisme fut un paganisme. En septembre 1990, George Bush, le père de l'autre, déclare devant le Congrès « Nous nous trouvons aujourd'hui à un moment exceptionnel et extraordinaire. La crise dans le Golfe Persique, là il fait référence à la future guerre du Golfe, la crise dans le Golfe Persique, malgré sa gravité, offre une occasion rare pour s'orienter vers une période historique de coopération. De cette période difficile, notre cinquième objectif, un nouvel ordre mondial, peut voir le jour. Une nouvelle ère, moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûre dans la quête de la paix. 25 ans plus tard, le monde est plus convulsif que jamais. Les États-Unis ont voulu exporter la démocratie, ou plutôt leur conception de la démocratie, celle qui a pour pilier le marché libre et non la justice sociale. Ils ont joué, seuls ou accompagnés, aux apprentis sorciers en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Syrie, comme si ces territoires étaient sans histoire, sans structure sociale, sans rapport de force interne, et donc malléables à merci. Chacun sait pourtant que l'extrémisme religieux fleurit sur la désespérance sociale, la corruption, la violence étatique et les politiques discriminatoires. Ramener l'eau courante et l'électricité dans les foyers, remettre en état des services publics, rouvrir les écoles, faire que ce soit la justice et non l'arbitraire qui soit la règle. Voilà en somme ce que demandent essentiellement des populations usées par des décennies d'autoritarisme politique et de guerre. Au lieu de cela, les néoconservateurs ont joué les uns contre les autres, les chiites contre les sunnites par exemple, puni les uns, récompensé les autres. Ces pays sont devenus des poudrières sur lesquelles règnent des politiciens affairistes, des seigneurs de la guerre, des fanatiques religieux et le big business. Daesh a déclaré la guerre au monde libre, disent certains. Non, Daesh a déclaré la guerre à tout le monde. Aux musulmans tout d'abord qu'ils massacrent sans pitié, et à notre insouciance, autrement dit, à notre souhait de vivre paisiblement à l'écart des tourments du monde qui doivent tant à l'action de ceux que l'on a portés au pouvoir. Reste à savoir si, pour pouvoir jouir paisiblement des bienfaits de la société de consommation et de la démocratie représentative sans saveur qui est la nôtre, nous accepterons sans ciller de voir nos libertés être mises sous surveillance et nos indignations sociales être mises sous éteignoir au nom de l'Union sacrée.
Operai, operaie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti. Sono le 8 del mattino.
Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité. Des murs, encore des murs, rien que des murs. Il semble que la seule réponse possible au péril contemporain consiste en l'érection de murs de parpaings, de béton ou de barbelés. Des murs pour se protéger de la masse des gueux. Des murs pour se préserver de la misère et de la violence qu'ils portent sur eux. Des murs pour vivre à l'écart des tourments du monde, dans l'espoir si vain de ne pas être emporté un jour par ces mêmes tourments. Il fut un temps jadis où les thuriféraires du monde dit libre, celui de la démocratie représentative, de la dictature de droite et du royaume de la marchandise, hurlaient contre ces murs érigés par le monde dit non libre, le monde communiste. Ces murs n'étaient-ils pas la preuve de leur autoritarisme foncier? Les murs du socialisme réel s'effondrèrent à la fin des années 80 et au début des années 90. Dans la foulée, d'autres murs s'érigèrent, naquirent ainsi aux États-Unis les gated communities, ces quartiers résidentiels haut de gamme pour personnes fortunées, désireuses d'éviter le voisinage des catégories sociales subalternes. Cela, c'est le communautarisme que l'on aime, celui des gens paisibles, de bonne éducation. Ce n'est pas celui des pauvres, des exclus du système, pour lesquels le communautarisme est une façon solidaire d'affronter un univers qui leur est foncièrement hostile et qui veut les réduire à l'état de monade. Depuis plusieurs mois, au péril de leur vie, des cohortes impressionnantes de réfugiés fuient des théâtres de guerre civile pour tenter de rallier l'Eldorado européen. Ces réfugiés de la guerre, de la misère et de la désespérance ont compris bien vite que l'empathie des Européens ne serait pas à la hauteur de leurs espérances. Moi, encore que je ne sois guère convaincu qu'ils se soient fait des illusions sur ce point. La plupart de ces réfugiés sont des connected people, des membres des classes moyennes éduquées. Ils savent que l'Europe en tant que telle n'est pas un Eldorado. C'est pourquoi ils cherchent à rejoindre les espaces internes à l'Europe encore préservée des politiques austéritaires. Ils ne rêvent pas de la Grèce en faillite, de la Hongrie fascisante, même pas de la France des droits de l'homme, mais de l'Allemagne de Mme Merkel et de M. Schäuble, ou de l'Angleterre de David Cameron. Des lieux où l'on peut trouver du travail, même payé au lance-pierre. Leurs raisonnements sont en somme similaires à ceux que développent les catalogués migrants économiques qui ont vocation, comme disent nos politiques, à retourner mourir dans leur pays ou au milieu de la Méditerranée. C'est pourquoi ces centaines de milliers de réfugiés rendent obsolète l'un des principes sur lequel repose la Convention de Dublin. Un réfugié doit faire sa demande d'asile dans le premier pays de l'Union européenne qu'il touche du pied, et non faire de l'asylum shopping et choisir lui-même son lieu d'exil. De cela, les réfugiés n'en ont cure, parce qu'ils ne cherchent pas seulement à se protéger d'un péril, mais également ils cherchent un lieu susceptible de leur permettre de vivre dignement, non comme un Grec ou un Portugais soumis à la doxa néolibérale. Du coup, le patronat se frotte les mains à l'idée de pouvoir s'appuyer sur une main-d'œuvre a priori formée et compétente, et capable d'accepter n'importe quel travail, y compris dans des conditions dégradées. Laissant aux élites politiques le soin de gérer les angoisses d'une fraction des classes populaires qui voient dans ces réfugiés de nouveaux concurrents dans la chasse à l'emploi. La concurrence est pour le peuple un système d'extermination, disait Louis Blanc en son temps. L'Europe de la paix et de la monnaie unique a montré son vrai visage, celui de l'aigreur, de l'égoïsme, du nationalisme, du racisme et de la logique comptable. Oh, je n'oublie pas et salue au contraire toutes celles et ceux qui en Grèce, en Italie, en Allemagne, dans les Balkans, à Calais, à Nantes ou du côté de Melilla soutiennent les réfugiés. Mais force est de constater que l'Europe de la paix et de la monnaie unique n'a pas tué les égoïsmes nationaux. Chacun voit midi à sa porte politique, sociale et culturelle. Partout on entend les mêmes discours. Pourquoi faudrait-il partager le si peu qu'il y a, qui plus est avec des musulmans, autant dire des ottomans, autrement dit des possibles fous de Dieu. L'extrême droite se délecte, crie à l'invasion et place son discours identitaire au centre des débats. Du côté des élites européennes, on continue la même politique. Payer des États tiers pour qu'ils empêchent leur jeunesse de les quitter pour tenter leur chance en Europe. On va donc généreusement aider le Liban, la Turquie, la Jordanie à maintenir sur leur territoire les réfugiés syriens. On va donc demander aux États africains de décourager autant que faire se peut leur jeunesse de rêver d'ailleurs. Cela ne servira évidemment à rien, sinon à booster encore plus le business juteux du commerce humain. Et comme cela ne règle en rien le problème, on agite l'épouvantail. Dans les années 20, le communiste au couteau entre les dents faisait l'affaire. C'est lui qui manipulait les masses ouvrières, c'est lui qui, dans les colonies, poussait à la révolte les indigènes. C'est lui qui. Aujourd'hui, ce sont les Black Blocs, les comités invisibles, les zadistes et autres no-borders qui font l'affaire. Des anarchistes, en somme, tout de noir habillés. Il va falloir que M. Cazeneuve nous en coffre un ou deux, histoire de donner du crédit à son storytelling, parce que pour l'heure, ce n'est pas très convaincant. En lisant Le Monde du 11 novembre dernier, j'ai ainsi appris que deux militants altermondialistes avaient été interpellés, puis très vite remis en liberté, car, je cite, « ils ne correspondaient pas au profil recherché ». La dégradation de la situation à Calais ne doit, à mon sens, pas grand-chose à l'engagement des militants radicaux sur le terrain. Elle est la conséquence de la politique décidée à Paris. En militarisant la zone, l'État français a rendu encore plus difficile, voire impossible, le départ des réfugiés pour l'Angleterre, pour le plus grand plaisir du gouvernement anglais. En harcelant les réfugiés, en les arrêtant et en les poussant à accepter des hébergements loin de Calais, l'État français ne cherche pas à les sortir de la misère effroyable dans laquelle ils survivent depuis des semaines ou des mois dans la fameuse jungle. Il veut les isoler. Or, les réfugiés ne sont forts que s'ils font nombre. Éparpillés dans tous les coins de l'Hexagone, ils seront à leur merci, éloignés de toute solidarité et de toute possibilité de résistance. On leur collera un tampon migrant économique sur le front et on les expédiera à l'aube via un charter. Car je ne crois pas me tromper, en avançant qu'il sera plus facile à un Syrien qu'à un Érythréen d'obtenir le statut de réfugié politique. Pourtant, Isaias a fait faire qui, président de ce pays de misère bordant la mer Rouge, n'a rien à envier à Bachar al-Assad, lui aussi, fait régner la terreur. La violence qui sévit à Calais est la conséquence de ce désespoir. Les réfugiés de Calais agissent comme le font leurs frères croupissant au Maroc, au pied des murs grillagés des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Ils attaquent massivement, ensemble, dans l'espoir que la maréchaussée ne puisse mettre la main sur tout le monde. De la même façon que du côté de la Turquie et de la Grèce, des vagues de réfugiés débarquent quotidiennement dans l'espoir que la porte ne se ferme pas devant eux. C'est une course contre la montre qui se joue. Une course pour la survie dans laquelle on joue sa vie et on la perd parfois. Les réfugiés n'ont pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout pour gagner l'Eldorado britannique. Échouer à Calais, si près du but, n'est pas une option acceptable pour ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont traversé des mers, marché des heures et des heures et qui vivent dans le dénuement depuis trop longtemps. Ils n'ont plus rien à perdre. Voilà tout. Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano?
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Howard Zinn, décédé en janvier 2010, était l'un des historiens les plus appréciés et controversés des États-Unis. Ce fils d'ouvrier, devenu professeur d'université sur le tard, grâce à une bourse d'État, était apprécié par la gauche américaine et cordialement détesté par la droite, qui ne voyait en lui qu'un communiste, un suppôt de Satan, un traître à la patrie pour ses prises de position radicales contre la guerre du Vietnam, le racisme, le capitalisme et l'American Way of Life. Il fut également critiqué par une partie des historiens qui lui reprochaient de faire de la propagande plutôt que de l'histoire. Il fallut attendre la fin des années 90 pour qu'Howard Zinn sorte de l'anonymat outre-Atlantique. Il le fut grâce aux éditions Agone, qui publièrent son œuvre phare, l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, une somme imposante et passionnante qui fut vendue à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires ici-bas. Fin 2014, les mêmes éditions Agone ont publié « Se révolter si nécessaire », une compilation de textes et discours sortie initialement entre 1962 et 2009. L'ouvrage s'ouvre sur deux textes importants dans lesquels Howard Zinn défend sa conception de l'histoire, car comme tout historien, il fut controversé mais surtout violemment attaqué par certains de ses pairs qui considéraient qu'un historien se devait d'être neutre, autrement dit objectif et non militant. Zinn est à 100 lieues de cette position. À moins d'en faire un simple synonyme de l'honnêteté, écrit-il, l'objectivité n'est ni possible ni désirable. Sans oublier que bien souvent, les historiens qui s'opposent à lui en se disant objectifs sont politiquement conformistes et, je cite Zinn, psychologiquement plus proches, que nous l'admettions ou non, du bourreau que de la victime. Zinn est du côté des victimes, des pauvres et des dominés sur lesquels l'histoire objective s'est si peu penchée. Zinn veut combattre la bonne conscience nationaliste des Américains, pour la majorité desquels l'oncle Sam agit par bonté d'âme et non pour défendre des intérêts économiques vulgaires. Il veut combattre le mythe de l'Amérique unie et sans classe, rappeler à ses contemporains que la révolte est parfois nécessaire, que le changement social est chose possible, tout en leur rappelant la tendance des révolutionnaires à dévorer leurs partisans. Bref, l'histoire doit ouvrir les esprits et secouer l'apathie. Et c'est ce que fit Howard Zinn sa vie entière, jusqu'à son dernier souffle, puisqu'il décéda sur la route, le menant à un meeting politique. Ouvrir les esprits et secouer l'apathie. Les grands combats menés par Zinn, l'activiste, ont pour nom la lutte contre l'exploitation économique et la violence étatique et patronale, la lutte contre les guerres, celles d'hier, notamment le Vietnam, celle d'aujourd'hui qui ensanglante l'Irak ou l'Afghanistan, la lutte contre le racisme, à laquelle il prit part aussi bien dans les États du Sud, où il commença sa carrière, que dans le Nord, où il fut obligé de la finir. Indécrottable optimiste, Howard Zinn s'est toujours évertué à faire comprendre aux Américains qu'il ne tenait qu'à eux de modifier l'ordre social, que cela n'était qu'affaire de circonstances et de volonté. C'est pourquoi il défendait avec force ce que l'on appelle l'action directe, les pratiques de non-violence active et de désobéissance civile, et surtout une saine méfiance à l'égard des politiciens. Chaque fois qu'un progrès a eu lieu, écrit-il en conclusion, chaque fois qu'une injustice a été vaincue, c'est parce que les gens se sont comportés comme des citoyens et non comme des politiciens. Ils ne se sont pas contentés de râler. Ils ont travaillé, ils ont agi, ils se sont organisés et se sont révoltés, si nécessaire, pour faire connaître leur situation aux détenteurs du pouvoir. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Chiche. Je vous conseille donc la lecture de cette ensemble de textes, Se révolter si nécessaire, textes et discours, 1962-2009, publié par Agone à la fin de l'année 2014, l'auteur Howard Zinn.
Lolo.
Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano?
Les notes de lecture.
Porta le armi.
Dans la mémoire des luttes, le germe des luttes de demain? C'est par cette interrogation que se clôt le livre que nous propose le groupe d'information et de soutien des immigrés, le GISTI, livre intitulé « Mémoire des luttes de l'immigration en France ». Cet ouvrage rassemble une trentaine d'articles courts et éclairants publiés dans Plein Droit, la revue de ce groupe singulier, né au début des années 70 avec pour ambition de défier le pouvoir avec, je cite, « l'outil du pouvoir par excellence, le droit ». Et les membres du GISTI continuent 40 ans plus tard à faire du droit un instrument de contestation sociale et non un instrument de régulation sociale, aidant les associations de soutien aux immigrés à se repérer dans le maquis des lois réactionnaires que produisent avec constance les gouvernements successifs de la patrie des droits de l'homme depuis quelques décennies. Rassembler en un volume de 200 pages ces dizaines d'articles est une initiative judicieuse, tant nous vivons aujourd'hui, pour reprendre leurs mots, un tarissement des luttes majeures concernant les immigrés avec ou sans papier. Mais ne nous y trompons pas. Ce livre n'a pas l'ambition de nous présenter l'histoire des luttes menées par les immigrés pour leur émancipation et leur dignité. Il se cantonne d'en exposer succinctement un certain nombre, des plus connus comme la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, ou la grève des loyers dans les foyers Sonacotra lors de la décennie précédente, aux plus obscures comme celle des ouvrières notamment italiennes de Marseille dans les années 1920. Les luttes des années 70 représentent le tiers des contributions. Rien d'étonnant à cela, car pour les militants révolutionnaires de cette France, chahutée par mai 68, le travailleur immigré incarne le prolétaire avec une majuscule, l'exploité, l'humilié, celui que l'on fait taire et celui qu'on n'écoute pas, y compris dans les organisations ouvrières. La sociologue Laure Petit nous entraîne ainsi dans la banlieue lyonnaise, auprès des ouvriers maghrébins de la société Penaroya, en lutte pour, littéralement, ne pas perdre leur vie à travailler. Sa collègue Mireille Galano nous conte la longue lutte menée par les résidents étrangers des foyers Sonacotra contre les loyers exorbitants et l'atmosphère de caserne y régnant. Il faut dire que 90% des responsables des 10 foyers étaient d'anciens militaires, rompus donc au maintien de la discipline. Abdelali Hadjat m'a fait découvrir le mouvement des travailleurs arabes, structure militante radicale liée à la gauche prolétarienne, à l'initiative d'une grève générale contre le racisme en septembre 1973, alors que dans le sud de la France, l'atmosphère était à la ratonnade. Dans les années 80, marquées par l'arrivée de la gauche au pouvoir, les combats se poursuivent et ne se résument pas à la marche de 1983. Même si le prolétariat immigré est le premier à subir les licenciements dans l'industrie, on continue à se battre dans l'automobile comme à Talbot-Poissy où le racisme est omniprésent, dans le secteur des services où la main-d'œuvre, plutôt féminine, est surexploitée. Mais on se bat aussi contre la double peine, les atteintes au droit d'asile ou pour en finir avec les cités de transit. On perd, on gagne, qu'importe, car ceux qui livraient ces combats partaient avec l'idée qu'ils pouvaient être victorieux, que le rapport de force n'était pas forcément défavorable. Nous dit le Gisti avant de glisser. Lorsque c'est la gauche qui gouverne et qu'elle pratique la même politique que la droite, il faudrait un mouvement social infiniment plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui pour avoir une chance d'infléchir la politique gouvernementale. Pessimiste logistique, à lire leurs conclusions, cela ne fait aucun doute. Mais comment ne pas l'être dans une France gangrénée par le racisme qui ne voit dans l'immigré et sa progéniture qu'un importun à canaliser ou à maintenir à distance. Je vous conseille donc la lecture de ce livre, Logistie, donc « Mémoire des luttes de l'immigration en France ». On peut le trouver sur le site même du GISTI, G-I-S-T-I.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle donne, vieille rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Dans la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de l'excellent Courrier international qui regorge d'informations sur ce qui se passe au-delà de l'Hexagone et celle quotidienne de Mediapart, j'ai lu un certain nombre de journées de revues ces derniers jours qui, me semble-t-il, peuvent vous intéresser. C'est le cas du numéro 417 de la revue L'Histoire, célèbre mensuel presque quadragénaire qui consacre son dossier aux communistes avec pour sous-titre « Pourquoi ils y ont cru ». Ce numéro se veut une sorte de réponse à l'histoire mondiale du communisme, une somme en trois volumes due à Thierry Volton, un journaliste et essayiste qui ne jouit pas d'une très grande réputation de sérieux dans le milieu des historiens. Un Volton, donc, qui ne voit a priori dans le communisme qu'une entreprise criminelle. Les historiens sollicités par l'histoire répondent en nous proposant une dizaine de courts portraits de communistes connus de tous, comme Louis Aragon, comme Aimé Césaire ou encore, bien sûr, Maurice Thorez, et d'autres beaucoup plus confidentiels et, oserais-je, intéressants, comme le catholique Pierre Pascal, Raymond Lefebvre, l'un des fondateurs de l'Association républicaine des anciens combattants, ou bien encore Renaud Jean, qui incarna longtemps le communisme rural, défenseur de l'exploitation familiale. J'y ai appris qu'en 1944, un dénommé Giovanni avait tenté d'organiser des kolkhoz expérimentaux sur l'île de Beauté aux grandes dames du parti communiste qui entendait se faire le champion de la petite propriété paysanne. Vous trouverez également un article instructif dans l'histoire sur le procès d'Issanabré qui se déroule depuis juillet à Dakar. Issanabré, c'est l'ancien dictateur du Tchad qui fut chassé du pouvoir en 1990 et remplacé par un autre grand ami de la France, Idriss Déby, dont on ne peut pas dire qu'il ait ardemment travaillé à l'instauration d'un régime démocratique depuis sa prise de pouvoir. Je vous signale également la sortie en librairie du second numéro de la revue du Crieur, lancée par Mediapart et les éditions La Découverte. Au sommaire de cette livraison, un article intéressant de François Cusset sur les nouvelles logiques de la révolte qui vous emmènera notamment dans quelques zones à défendre. De Chevènement au FN, la nouvelle pensée unique, tel est le titre du long article que Joseph Confavreux et Marine Turchi ont consacré aux racines de la nébuleuse républicaine et souverainiste de gauche comme de droite. Laura Raïm s'est intéressée à la façon dont la crise économique avait bouleversé ou pas le monde des économistes, notamment du côté de l'enseignement. Quant à Ludovic Lamant, il nous aide à mieux appréhender le mouvement Podemos en Espagne, ou du moins ce qu'a en tête sa direction. Enfin, alors que s'ouvre la COP21, il est intéressant de lire la contribution de Philippe Biwix intitulée « Les technosciences ou l'utopie corrompue ». Enfin, sachez que le numéro 275 du mensuel « Sciences humaines » consacre son dossier central à la liberté, dossier précédé par un long article intitulé « Qu'est-ce que le socialisme ?» qui part des utopistes du XIXe siècle et s'en va mourir aux pieds du corrézien de Neuilly-sur-Seine, François Hollande. Comme le souligne le politiste Frédéric Savicky, il existe un hiatus entre l'étiquette et le contenu. On ne peut mieux dire. Le Turbin, une cantine, une cause.
Oh là 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 là, tu fais quoi là?
Je répète pour samedi.
Samedi?
C'est la première de notre spectacle.
Ah ouais, c'est vrai que monsieur fait du théâtre.
Oh, moque-toi. Mais moi, je m'éclate. On est un groupe très sympa, on bosse bien et globalement, ça joue correct.
Oh, ben j'en doute pas, hein. Et c'est quoi cette année, du théâtre d'intellectuel ou un petit sachet Guitry?
Non, la vie de Jésus.
La vie de Jésus? Oh putain, vous avez rien d'autre en stock? Parce que c'est pas très glamour, hein. Et tu joues quoi? Sa mère?
Tu peux être con. Non, je joue Jésus en personne.
Et toi, Jésus? T'as pas un cheveu sur le caillou?
Ah, les perruques, ça existe, espèce de couillon. On en a discuté, on a fait des essais. Et je fais un Jésus très convaincant selon notre metteur en scène.
Ah, ben nom de Dieu. Moi, je veux bien qu'avec une perruque, tu ressembles à un chevelu, mais je suis désolé, tu fais pas crédible comme Jésus.
Et pourquoi ça?
Ben, parce que Jésus, il bouffait pas de la mayonnaise avec ses frites pour accompagner son steak au tartare. Je suis désolé, Jésus, il était maigre, pas gros comme toi. Enfin, je dis pas que t'es gros, hein. Je dis juste que tu fais pas maigre. Et que tu feras pas maigre, même dans les fringues de Jésus.
Ah bah, merci de ton soutien.
Non, mais le prends pas mal, mais bon, un Jésus de 90 kilos...
85.
Bon, un Jésus de 85 kilos pour 1m70...
75.
Ouais, 75 si tu veux. Bon, c'est pas un Jésus tel qu'on se l'imagine. Quand il est sur sa croix, le Jésus, on voit ses côtes, on voit pas ses poignées d'amour, si tu vois ce que je veux dire.
Tu as vraiment un rapport à l'art qui est pitoyable. Je parie que tu n'aimes pas la peinture abstraite.
La peinture abstraite? Je sais même pas ce que c'est. Moi, je suis pas du genre à me palucher sur trois traits rouges, un rond bleu et puis un machin vert. Alors, s'il y en a qui trouvent ça beau, tant mieux. Mais pour moi, c'est de l'arnaque, ok?
Ouais. Ouais. Mais pour toi, au théâtre, proposer un Jésus qui bouscule l'idée que les gens se font du Messie, c'est pas possible.
Non, mais moi, je dis pas que c'est pas possible. Je dis que ça fait pas sérieux. Un Jésus rondouillard, c'est pas sérieux. Le gars, il multipliait les poissons, mais il les bouffait pas avec un beurre blanc. Jésus ne peut être que maigre. Il n'y a que les papes et les moines qui sont gras comme des loches. C'est comme ça. Toute l'histoire de la religion chrétienne repose là-dessus. Le prophète a la peau sur les os, et ceux qui vivent de son héritage ont un bide de notaire. Voilà tout.
Eh bien nous, ne t'en déplaise, on a décidé de bousculer les codes et d'innover.
Oh, je vois le genre. Marie-Madeleine est ménopausée, fait son quintal, c'est ça?
Parce que t'es con. T'es vraiment obtus quand tu t'y mets.
Ah, mais fais pas la tête. Et si tu m'invites, hein, j'y viendrai ton spectacle, tu sais.
Certainement pas. Si ça t'intéresse pas, viens pas.
Oh, je vais pas te mentir, la vie de Jésus, je m'en fous un peu. D'ailleurs, c'est votre truc, ça, les vies de machin, là. L'an dernier, c'était quoi?
La vie de Jean Moulin.
Et l'an prochain?
La vie de Jaurès.
Ah, ben là, je te verrai bien en Jaurès, dis donc. Tu te fais pousser la babarbe, là, tu te colles un postiche sur le crâne, tu te fais un petit régime non amaigrissant, il te reste plus qu'à être socialiste et ça roule.
Est-ce que t'es con?
Non, mais à moins que vous refiliez le rôle à un anorexique imberbe pour faire moderne.
Allez, continue tes conneries, parle tout seul, je t'écoute pas.
Oh, ce que t'es susceptible, fais pas la tête. Je m'excuse. C'est très bien de faire du théâtre, c'est toujours mieux que d'avoir un abonnement au stade pour voir des matchs de foot à la con.
J'ai aussi un abonnement à la Beaujoire, je te remercie.
Ah bon? Bah tu pourrais peut-être jouer Jésus en short.
Non, c'est bon, arrête et passe-moi le vin.
C'est quoi, c'est pour l'apéro ou l'Eucharistie?
Passe-moi le vin et tais-toi.
Jogon, justement. muro! Il muro! Giù! Giù!
Capitalisme, individu et société, feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Les révolutionnaires acquis aux idées libérales considèrent que les corporations, en empêchant la concurrence, sont un frein au développement économique et à l'innovation. Dans le domaine des relations professionnelles, ils considèrent que le contrat liant deux individus égaux en droit doit être la règle, à charge pour l'un et l'autre de défendre au mieux son intérêt personnel. L'idée que des ouvriers faisant le même travail puissent se réunir, s'entendre et agir ensemble pour se défendre est inacceptable. En mars 1791, le décret d'Allard supprime les corporations, rendant, je cite, « libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », l'essentiel étant qu'elle soit en règle avec la législation par le paiement d'une patente. Cette même année, Isaac Renégui le Chapelier, avocat et député de Bretagne, s'indigne que, je cite, « plusieurs personnes ont cherché à reconstituer les corporations anéanties afin de forcer les entrepreneurs de travaux à augmenter les prix de la journée de travail, d'empêcher les ouvriers et les particuliers qui les occupent dans les ateliers de faire entre eux des conventions à l'amiable. On force les ouvriers, dit-il, de quitter leur boutique alors même qu'ils sont contents du salaire qu'ils reçoivent. » Il conclut en disant « Il n'y a plus de corporation dans l'État. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Le Chapelier et beaucoup de révolutionnaires de 1789 craignent cette politisation de la masse ouvrière. Citons par exemple le journal « L'Ami du Roi ». Les ouvriers qui ont entendu parler des droits de l'homme et des principes d'égalité sur lesquels la Constitution est fondée trouvent qu'il est très inconstitutionnel que leurs maîtres s'enrichissent à leurs dépens, tandis qu'ils ne reçoivent qu'un salaire très modique de leurs travaux. La loi Le Chapelier de juin 1791 proscrit toute forme de cessation collective de la production et d'organisation corporative, qu'elle soit patronale ou ouvrière. Il le fait au nom de la liberté. Car la force de travail est considérée comme une marchandise, obéissante à la loi de l'offre et de la demande, et le rassemblement pour la défense de ses intérêts est une atteinte à la liberté des droits de l'homme. Un journal, Le Babillard, soutient l'initiative au nom de l'efficacité économique et de la méritocratie. Il écrit ceci « Plusieurs ouvriers se plaignent du décret qui rend au maître la liberté de récompenser les talents et l'activité. Cette loi contrarie les feignants et les ignares qui forçaient les entrepreneurs à les payer comme bons ouvriers. Ben tiens. » We'll be right back.
저건 저스터 모르. 모르. 이 모르. 저. 저.
캐피탈isme, individu et société. Feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. La Saint-Lundi est une vieille coutume ouvrière qui sera considérée au XIXe siècle comme un des grands fléaux sociaux et moraux du siècle et sera combattue comme telle. On la retrouve aussi bien en Europe du Sud qu'en Scandinavie, en Allemagne ou Outre-Manche, et ce, dès le Moyen-Âge. Il s'agit de la coutume de nombreux ouvriers de chômer volontairement le lundi et de préférer à l'atelier le mastroquet qu'ils gagnent dès le matin ou dès le midi. Au début du XIXe siècle, la Saint-Lundi est bien vivante et bien ancrée dans le monde du travail. Avant 1830, le chômage du lundi est en général étroitement lié à celui du dimanche. Or, le repos dominical entre, après 1830, dans une sphère de grande turbulence. À Paris ou dans les centres industriels du nord et de l'est de la France, artisans, compagnons et ouvriers travaillent de plus en plus le dimanche matin, consacrent l'après-midi à leur famille et se réservent le lundi pour faire la fête. Dans les régions catholiques seulement, les ouvriers enchaînent deux jours de repos d'affilée, le dimanche et le lundi. La Saint-Lundi se transforme donc en alternative au repos dominical, à une période où ce dernier se transforme en simple jour de repos et de famille selon les exigences et les normes de la bourgeoisie. Dorénavant, c'est la Saint-Lundi qui incarne le moment festif pour une partie de la classe ouvrière. Cette concurrence au dimanche chrétien lui attire par conséquent les foudres des journalistes et penseurs catholiques et moralisateurs. Ceux-ci dénoncent l'ivrognerie, conséquence inévitable de la Saint-Lundi, mais également la violence dirigée contre les femmes qui mettent en péril, bien sûr, l'unité familiale. Ils s'en prennent également à cette recherche du plaisir qui agite la classe ouvrière. L'abbé Dreuil dénonce ainsi cette tendance de la classe laborieuse à vouloir s'amuser, tendance qui se solde, je cite, toujours en maladie, en regret et en misère, sous la forme de libertinage, gourmandise, ivrognerie. La Saint-Lundi est donc immorale par essence, d'autant plus que tout l'argent dépensé en libation ou en prostituée ne part pas en épargne. Or, une famille honnête est une famille qui épargne, qui se projette dans l'avenir et qui échappe à son destin, la misère. Qui chôme le lundi ? Oh, tout le monde ou presque, hein, les ouvriers du bâtiment comme les tailleurs, perruquiers, forgerons, tisserands, mais pas ceux qui travaillent dans l'alimentation. Louis-René Villermé notera dans ses enquêtes sociales que, je cite, « les ouvriers à la tâche ou aux pièces peuvent ordinairement se reposer quand il leur plaît, car ils disposent, plus librement que les autres, de leur temps de travail ». Le montant du salaire joue également un rôle capital. On ne chôme pas le lundi quand on gagne péniblement de quoi survivre. Ce sont donc principalement des ouvriers qualifiés qui chôment, des ouvriers qui ne sont pas logés par leur patron comme ce fut le cas longtemps, mais qui disposent d'un logement distinct du lieu de travail. Des ouvriers qui peuvent donc se permettre, en l'absence d'une véritable discipline au sein de l'atelier, de s'absenter le lundi et de ne travailler que 3, 4 ou 5 jours par semaine. De même qu'il peut choisir de travailler dans la matinée du dimanche pour augmenter les ressources nécessaires aux dépenses conditionnées par la fête du lundi. Ce chômeur n'a pas de sexe attitré. Les ouvrières s'y adonnent, comme à Lille, Reims ou Paris, où les brodeuses, bien payées, limitent leur temps de travail hebdomadaire à 4 jours par semaine. Parmi les chômeurs invétérés du lundi, on trouvera également les compagnons qui utilisent ce jour pour exécuter leur rite ou se battre entre confréries concurrentes. Pour la plupart des ouvriers des centres industriels, anticléricaux et antibourgeois, l'institution du dimanche est trop entachée de cléricalisme et soumise aux normes de la bourgeoisie. Ils lui préfèrent la fête du lundi. À partir de 1848, le discours contre la Saint-Lundi ne s'appuie plus seulement sur la morale, mais sur la politique. Le chômeur du lundi n'est pas seulement cet ouvrier peu consciencieux à la morale bien faible, c'est aussi un agitateur politique, membre de sociétés secrètes et lecteur de mauvaise presse. Dans une enquête menée au début des années 1870 par la police dans le département de la Seine, le commissaire de police évoque la loi de 1864 sur les coalitions qui a jeté, dit-il, une perturbation morale chez les ouvriers en réveillant en eux des prétentions exorbitantes allant jusqu'au point de vouloir les faire régner dans l'atelier, de faire la loi au patron. Ben tiens. Avant 1864, selon le même commissaire, il existait l'harmonie dans ces industries. Le commissaire du quartier de la Monnaie, au lieu de l'imprimerie et fief de la Saint-Lundi, constate à son tour les mauvais rapports entre ouvriers et patrons, notamment dans les petits ateliers, où les ouvriers, je cite, « ne sont pas assidus au travail, se livrent à la boisson, à la paresse, à la lecture des écrits licencieux et révolutionnaires, et se jettent à corps perdu dans les sourdes manœuvres de la Première Internationale. » Oh, malheureusement, dit-il, le nombre de ces prétendus ouvriers peut être évalué aux 2/3 au moins du nombre des travailleurs dans mon quartier. Fin de citation. Comment combattre la Saint-Lundi? Oh, d'abord, on songe à l'instauration obligatoire du repos dominical, dont les auteurs catholiques et philanthropiques prônent les bienfaits pour l'ordre moral et social de la société, condamnant ainsi le libéralisme politique et économique pour qui toute entrave à la bonne marche des affaires est une hérésie. On fait œuvre de propagande par l'image et l'écrit en répétant sans relâche que le chômeur du lundi est un ouvrier qui s'est détaché de la religion, qui est sous influence, faible de caractère, qui risque de perdre son travail, sa famille, de sombrer dans la misère, voire la délinquance et la sédition. Mais c'est la répression patronale qui aura raison de la tradition. À Sedan, tous les patrons du textile se concertent pour renvoyer tout ouvrier fêtant le lundi. Idem en Alsace. Dans d'autres endroits, ils sont exclus de toute aide par les bureaux de bienfaisance ou par les sociétés de secours mutuels. Ailleurs, des patrons distribuent des primes à ceux qui viennent œuvrer le lundi ou ils raccourcissent la journée de travail du lundi. Ailleurs encore, on ne verse plus les salaires le samedi, mais le mercredi ou le vendredi, jour habituel de marché, histoire d'alléger le porte-monnaie du travailleur à la veille du lundi. On table également sur la semaine anglaise, qui libère le samedi après-midi, et sur l'influence moralisatrice de l'épouse, mais rarement sur la contrainte de la loi. Mais jusqu'en 1880, la Saint-Lundi restera vivante dans les corporations d'ouvriers qualifiés dont les savoir-faire sont recherchés par les employeurs et qui peuvent donc changer de maison si le cœur leur en dit. Le chômeur du lundi n'était donc pas plus un ivrogne qu'un révolutionnaire, c'était tout simplement un ouvrier fier de son autonomie dans le travail et capable encore d'imposer celle-ci à son employeur. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vierengaine. À bientôt sur Alternante FM.